au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes jeudi, c'est le 2 octobre. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est Lanaudière PM à l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante. Il sera question de Santé Québec. On va parler aussi à l'émission aujourd'hui avec Michael Lamarche et les présidents fondateurs du quartier général de Lanaudière. C'est un nouveau centre d'affaires. Claude Arpin sera avec nous, coordonnateur adjoint à la maison La Hutte de Joliette. On va parler de la 29e édition de la Nuit des sans-abri. Avec notre analyste politique Mathieu Bélanger, il sera question de l'impasse budgétaire aux États-Unis. Mais tout d'abord, pour débuter l'émission, on va revenir sur le dossier de la gestion de l'offre qui a fait refait surface dans l'actualité. On en parlait d'ailleurs hier avec Pierre Paquette. Le dossier suscite la crainte du Bloc québécois. Le Globe and Mail, qui cite des sources anonymes, faut le rappeler, selon lesquelles Ottawa étudierait la possibilité d'offrir un meilleur accès aux produits laitiers américains, le transformer dans le marché canadien. François Morin a eu l'occasion de s'entretenir là-dessus avec le député de Berthier-Masquinongé et porte-parole du Bloc québécois en agriculture, Yves Perron.
Alors Yves Perron, on apprenait hier qu'il y a des produits laitiers américains qui pourraient se retrouver sur les tablettes des épiceries. Essayez de nous rassurer. Dites-nous pas que le gouvernement a trouvé une façon de contourner la gestion de l'offre.
En fait, le gouvernement nous semble s'apprêter à donner par la porte en arrière ce qu'il peut pas donner par la porte en avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu complexe, là, mais quand on a donné des quotas d'importation dans les ententes antérieures, ça fait partie des batailles de corridor qu'on a gagnées. Vous savez, ça fait toujours les nouvelles, puis des fois c'est mieux parce qu'on obtient plus de résultats. On avait gagné que la décision, qui est pleinement d'ailleurs du gouvernement canadien, là, ça relève pas du tout les Américains, que les gens qui auraient le droit d'importer les quotas, c'était les transformateurs à 80%. Puis il y a un petit 20% qui reste pour des surtransformateurs ou des distributeurs. Les détaillants n'en ont pas ou à peu près pas. Là, les Américains demandent que ça soit donné à des détaillants. C'est très simple. La logique, c'est qu'un détaillant, lui, il va vouloir augmenter sa marge de profit. Donc, lui, il va importer un cheddar, par exemple, qui se produit déjà ici, de l'extérieur, s'il a une meilleure marge de profit dans son commerce. Fait qu'il va déplacer les produits québécois des tablettes, puis il va mettre le produit étranger, puis il va faire plus d'argent. Alors que quand on l'a fait, on l'a donné à des transformateurs. Les transformateurs, lui, il veut pas concurrencer des produits qu'il fabrique déjà au local. Donc, il va importer les mêmes quantités, mais il va importer des produits complémentaires, souvent plus raffinés, des produits qui ne sont pas produits ici. Donc, ça a beaucoup moins d'impact sur nos producteurs. Et c'est pour ça qu'on avait négocié ça. Puis c'est une décision qui avait été prise, mais dont les Américains sont pas contents. Ils ont porté plainte, ils ont perdu leur appel. Fait que leur façon de faire, c'est quoi? C'est que dans la prochaine entente, on veut le faire changer. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de dire tout le temps oui à M. Trump, là. Et ça, on va être là pour se battre.
Alors, malgré la loi qui est en vigueur, les négociations sur le renouvellement de l'accord commercial, de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique pourraient paver la voie à l'intrusion de produits étrangers sur les tablettes.
Oui, il risque d'avoir plus de... Si jamais le gouvernement décidait de donner des quotas d'importation, de les enlever aux transformateurs, puis de les donner à des distributeurs, ben ces distributeurs-là, ils vont avoir beaucoup moins de scrupules à importer des produits qui concurrencent nos produits locaux. Donc, on peut s'attendre à un impact quand même assez important sur nos producteurs sur gestion de l'offre. Alors pour comprenez monsieur... l'urgence de la loi qu'on a passée au mois de juin. Si elle n'était pas là, il l'aurait déjà donné, là. Et ça, c'est une nouvelle bataille qu'il faut qu'on mène, mais il faut qu'on les empêche de faire ça.
Pour monsieur et madame qui nous écoutent et pour ma compréhension à moi aussi, il y a quand même des experts dans le domaine qui ont dit non, ça sera pas dangereux pour les gens d'ici.
Ça dépend, ça sera pas dangereux, ça dépend premièrement de quel expert dont vous parlez, là, parce qu'il y a des gens qu'on nomme experts dans les médias à gauche et à droite puis qui connaissent pas grand-chose puis qui se basent pour des données avec des faux chiffres, là. Je donnerai pas de nom, mais j'ai le goût. Mais sinon, non. Il faut la vigilance. Puis cette industrie-là, on veut la protéger. Fait que s'il y a des compromis à faire, il faudrait qu'ils soient extrêmement minimes. Puis c'est important pour le long terme. Puis, tu sais, il faut toujours se souvenir, M. Morin, que la gestion de l'offre, là, c'est pas juste du lait puis des œufs, là, puis de la volaille, là. C'est toute la vitalité de nos régions. C'est des écoles dans lesquelles il y a des enfants parce qu'il reste des maisons d'errants, parce qu'il reste encore des fermes de taille familiale. C'est des commerces qui assurent la vitalité de nos petites localités. C'est tout ça que ça représente. Donc, on ne défend pas juste des producteurs agricoles, on défend aussi les régions du Québec.
Est-ce qu'il y aurait un autre moyen que par la législation de protéger justement les gens d'ici, c'est-à-dire de favoriser la transformation de produits laitiers à moindre coût?
Ben, en fait, ça se fait déjà très bien, là. La seule chose qu'il faut faire, c'est refuser cette demande-là. On peut pas toujours tout donner, là. Les gens me parlaient, là, ce matin, quelqu'un d'autre me demandait, oui, mais là, il faut faire des compromis. Je veux bien croire, faut faire des compromis des fois, mais ça peut pas non plus être couché à terre, là. Et le gouvernement Carney, ce qu'il fait depuis qu'il est en poste, là, c'est qu'il cède sur absolument toutes les demandes américaines. On a enlevé la taxe sur le numérique, on a enlevé les contre-tarifs. Je dis pas que c'est toutes des mauvaises décisions. À un moment donné, il va falloir arrêter de tout donner. Puis la gestion de l'offre, on a décidé ensemble, avec ce premier ministre-là, d'ailleurs, au mois de juin, là, on a passé la loi, puis on protégeait. Là, ne donnons pas par la porte en arrière ce que la loi nous a interdit de faire par la porte en avant. Voilà, c'est ça la ligne.
C'était le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture sur le dossier de la gestion de l'offre. On en parlait hier avec Pierre Paquette. On a donné l'impression que depuis un certain temps, en fait, depuis qu'il a pris le pouvoir, Mark Carney, premier ministre du Canada, est devenu un peu lèche-botte de Donald Trump et est prêt à tout donc pour ouvrir le marché canadien aux Américains. Rappelons qu'on va renégocier là, bientôt là, cet accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et là, est-ce qu'on ouvre les portes grandes ouvertes à tout produit américain sur les tablettes, ce qui va désavantager nos producteurs au Québec? C'est vraiment inquiétant. Il est 16h13. Dans un moment, avec nous, notre analyste politique Mathieu Bélanger. Il sera justement question de l'impasse budgétaire là, du côté des États-Unis.
Seule coopérative funéraire dans la Naudière, la coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm répond aux demandes des membres et non-membres avec respect et écoute. 5 points de service à travers 2 MRC, 450-886-3763 et 450-839-3450.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, L'Expert Dépanneur, à Notre-Dame-de-Lourdes Dépanneur Gabi, Les Délices de Lourdes, à Sainte-Élisabeth Dépanneur chez Napol, à Saint-Félix-de-Valois Dépanneur Estelle, Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, Dépanneur Proxy Extra et Marché IG à Rainville, à Saint-Jean-de-Mata Supermarché Métro, L'Expert Dépanneur, Marché Express Ultramar, Dépanneur du Lac-Noir et à Saint-Damien, Marché Métro Imerie, Dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener? Des massages à donner? Des prothèses à fabriquer? Vous avez une bonne idée? Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
L'Association des pompiers de Saint-Jean-de-Mata vous invite à un super party trad le 17 octobre dès 20h. Au programme, les cuillères à carreaux et les campagnards. Une soirée festive à ne pas manquer. Les billets sont en vente dès maintenant au 450-803-5232. Un party trad à ne pas manquer le 17 octobre dès 20h. Au Centre culturel de Saint-Jean-de-Mata.
avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Béatrix, Saint-Ignace de Loyola, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Michel-des-Saints.
CFNJ, 99.1-88.9.
Ici, la musique américaine est tellement taxée qu'on n'en joue pas. La Naudière PM. Politique internationale.
Il est 16h16 aux États-Unis. Républicains puis démocrates se tiennent toujours mutuellement responsables de l'impasse budgétaire dans laquelle le pays se trouve présentement. L'administration américaine qui tourne au ralenti et comme l'a rappelé notre analyste politique Mathieu Bélanger, François Morin, c'est pas une première dans l'histoire des États-Unis. On a l'habitude.
Ça arrive de temps en temps, de la façon que les États-Unis fonctionnent. Il faut voter le budget, donc, de fonctionnement de l'État fédéral à chaque année. Et si on n'arrive pas à voter le budget, ben, on arrive justement à cette paralysie-là. Comparativement à chez nous, où si on n'arrive pas à faire un budget à temps, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu récemment avec le fait que le gouvernement fédéral canadien n'a pas déposé encore de budget, là, pour l'année actuelle, ben, on fait juste continuer à appliquer un peu là, les paramètres du dernier budget jusqu'à la prochaine fois. La plupart des États fonctionnent comme ça, mais pas aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, il faut vraiment avoir un vote là, réel de fois en fois. Et l'année fiscale commençait le 1er octobre. Donc, hier, on n'a pas réussi à voter un budget avant ça, donc jusqu'au 30 septembre, là, 23h59 secondes. Ce qui nous amène dans la situation actuelle, ça arrive de temps en temps. La question est toujours la même, combien de temps ça va durer? Parfois, ça dure quelques heures, puis finalement, ça change pas grand-chose. Quelques jours, c'est un peu désagréable, c'est pas la fin du monde. La dernière fois, pendant le premier mandat de Trump, ça avait duré pendant 35 jours. Pendant 35 jours, là, ça fait plus mal à l'économie en général, mais ça fait plus mal aussi là, aux économies personnelles de bien des individus qui ne reçoivent pas certaines subventions de l'État pendant ce temps-là, ou encore qui travaillent pour l'État, mais ne sont pas payés jusqu'à temps là, que le conflit soit réglé. Donc, une période qui peut être difficile, et là, ben, une fois de plus, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Quand on parle de budget, on parle de revenus et de dépenses. Alors, où sont les revenus, les gros revenus tant promis par Donald Trump par le biais des tarifs?
Les tarifs continuent à s'appliquer jusqu'à preuve du contraire pendant ce temps-là. L'enjeu principal ici ce qu'on appelle le shutdown donc aux États-Unis, c'est pas tant la question des tarifs qui vont peut-être permettre à l'économie américaine d'avoir un peu d'argent. En même temps, on se rappelle que les tarifs font aussi que les choses coûtent plus cher parce que les gens qui importent des trucs et donc sont visés par des tarifs, les gens, les entreprises, ben vont refiler la facture aux consommateurs. Donc, pour les consommateurs, c'est plus difficile. L'enjeu central qu'on a ici, c'est la question du financement de... Ben, plusieurs enjeux, mais particulièrement le financement là, des soins de santé, où les démocrates là, demandent à ce qu'on... On prolonge certaines subventions là, pour les soins de santé qui avaient été dans les budgets précédents, alors que les républicains s'y refusent. Dans ce contexte-là, ça fait en sorte que les deux partis politiques, les républicains de Donald Trump, les démocrates qui sont actuellement à l'opposition, tentent de mettre de la pression sur l'autre parti pour obtenir des choses. C'est un peu le jeu là en anglais qu'on appelle « chicken », donc le premier là, qui va cligner des yeux. On tente de mettre, de part et d'autre, on tente de mettre le blâme sur l'autre parti politique. Et c'est beaucoup l'électorat qui aura à se prononcer là-dessus au courant des prochains jours. En fonction des sondages, eux, l'électorat, à qui vont-ils attribuer le blâme, les démocrates ou les républicains? Ben, ça va peut-être de faire la pression sur un des deux camps pour que les deux camps, finalement, clignent des yeux et qu'on puisse avancer là-dedans.
Est-ce qu'une situation comme celle-là qui se vit aux États-Unis a des répercussions là à l'extérieur?
Plus ou moins, oui. Il y en a toujours des répercussions. Déjà, si l'économie américaine diminue, ça a un impact là, sur les autres pays. Nous, au premier chef, qui faisons commerce avec les États-Unis, moins d'argent, donc ça peut avoir un impact un peu sur nous. Ça a un impact là, sur certains services qui sont rendus au niveau de l'immigration, par exemple, au niveau de certaines représentations diplomatiques avec d'autres pays. Par contre, c'est un effet qui est quand même assez petit, surtout si ça dure pas longtemps, au niveau, disons, géopolitique, c'est-à-dire que le président américain continue à fonctionner, continue à travailler, continue à négocier avec d'autres pays, à avoir une présence dans les médias. L'armée continue quand même à fonctionner malgré tout. Donc, au niveau le plus global, l'impact là est quand même marginal sur les autres pays, sur les relations internationales. C'est en plus au niveau interne que là, l'impact interne aux États-Unis, que là, l'impact se fait beaucoup plus sentir.
Et si les services à la population ne sont pas au rendez-vous, on vient de le mentionner, cette même population risque de commencer, là, je dis pas à sortir dans les rues, mais à manifester davantage.
D'autant plus que Donald Trump a annoncé que il pourrait profiter, autant qu'il était en désaccord avec la fermeture du gouvernement américain actuel, mais qu'il pourrait profiter de l'occasion pour ressortir des choses bonnes de ça, ce sont ses termes, par exemple de pouvoir congédier beaucoup de personnes, de fonctionnaires qui, d'après lui, là, occupent des fonctions qui sont inutiles au sein de la fonction publique américaine. Donc, ça se pourrait, mais est-ce du bluff, est-ce une menace, ça reste à voir, mais ça se pourrait que plusieurs personnes soient congédiées avec ça. Et certainement que tout ça va créer de la pression. Ces personnes-là, rappelons-le, ben, ce sont des citoyens américains, des personnes qui votent, des personnes qui, des contribuables, donc qui payent des taxes et des impôts. Ça se pourrait que la situation actuelle, si elle perdure dans le temps, crée beaucoup d'insatisfaction. Mais là, contre qui cette insatisfaction-là va-t-elle se diriger? Vers les républicains ou vers les démocrates? Ça, c'est ce qui reste à voir. Ça met de la pression sur les deux camps. Et le camp, souvent, historiquement, le camp perdant a été celui qui provoquait la fermeture, le camp de l'opposition. Donc, présentement, ça serait démocrate, mais ça ressemble dans un contexte, on le mentionne souvent, qui est inédit avec le deuxième mandat de Donald Trump, avec Donald Trump lui-même, mais pas seulement dans ce deuxième mandat-là. Ça fait en sorte que c'est très difficile de savoir combien de temps ça va durer, quel parti politique va être le plus amoché, comment qu'on va sortir de tout ça. C'est beaucoup d'inconnus, mais certainement là, que la pression populaire aura éventuellement un impact là-dessus.
Ben, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. Chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les élections mi-mandat, veut pas, s'en viennent aux États-Unis et chaque parti, que ce soit les démocrates ou les républicains, là, ont leur stratégie. Et est-ce que tout ça fait partie de la stratégie de Donald Trump pour les élections mi-mandat? Ben, qui sait? Seulement lui. À venir, oui, dans un instant avec nous, on aura Claude Arpin, qui est coordonnateur adjoint à la maison La Hutte de Joliette.
Lanaudière PM, communautaire.
Ouais, la 29e édition de la Nuit des sans-abri de Joliette aura lieu le 17 octobre. C'est à 17h et jusqu'à minuit. Ça va se passer jusqu'en fin de soirée au Parc La Joie. Et l'an passé, il y a quelques 1500 personnes qui sont présentées là, qui ont participé à cette Nuit des sans-abri. Lors du point de presse aujourd'hui, le comité organisateur a remis son prix Pompon d'or qui vise à souligner l'implication d'une personne, d'un organisme, à la psychiatre Gabrielle Larouche. Et elle a mis en place cette psychiatre un projet pilote permettant à son équipe de s'impliquer dans la communauté. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir cet après-midi avec le coordonnateur adjoint à la Maison La Hutte, Claude Arpin.
Étant dit, Claude Arpin, si on récidive avec une autre édition de la Nuit des sans-abri, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un message qui se passe et c'est important que les gens prennent conscience du phénomène.
Oui, tout à fait. Tu sais, le phénomène de l'itinérance, c'est un phénomène qui, je crois, existe depuis des centaines d'années déjà. L'itinérance, ça faisait partie de bien des communautés avant. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Faut en parler, faut sensibiliser les gens pour que un jour on puisse espérer vaincre ce phénomène-là, si c'est possible de le vaincre.
Et comment ça va se passer, l'édition 2025?
C'est une vigile. On invite les gens de la communauté là, à venir au Parc La Joie. C'est un repas, des spectacles, un peu de sensibilisation des données. Il va y avoir des intervenants de différents milieux qui sont là pour discuter avec les gens, essayer de comprendre, démystifier un petit peu c'est quoi là, ce phénomène-là, l'itinérance, qui est un phénomène multifactoriel. Donc, beaucoup de questions que les gens peuvent se poser. Pourquoi qu'on a ça dans nos villes? Mais cette soirée-là, là, c'est un petit peu pour justement là, venir démystifier tout ça. Là.
Parce que, évidemment, les gens qui doivent composer avec l'itinérance sont peut-être un petit peu plus en retrait, veulent pas nécessairement parler de leur situation, mais là, ça va être l'occasion quand même d'échanger avec certains de ces gens-là.
Tout à fait. Tu sais, vivre une situation d'itinérance, c'est pour quelqu'un qui la vit, c'est jamais facile. On n'est pas nécessairement fier de ce qui nous arrive. C'est souvent une succession là, d'échecs ou de bad luck, je vais dire comme ça, là, excusez mon anglicisme. Donc, c'est difficile de s'ouvrir. cette soirée-là permet justement d'avoir un accueil sans jugement, une écoute peut-être un peu plus approfondie pour tenter de mieux comprendre là, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là, puis dans nos villes aussi, dans nos communautés en par rapport avec ça.
Je vais revenir un petit peu sur ce que je disais au début. Le phénomène, il est toujours là et peut-être même un peu plus en croissance parce que les difficultés économiques sont là, la pénurie de logement est là.
Oui. C'est ça. Le phénomène est là. Moi, ça fait quand même quelques années que je travaille dans le domaine. Je vais être honnête, c'est sûr qu'on voit quand même une certaine augmentation. C'est quand même dur à quantifier aussi. Quand on fait des dénombrements puis que dans les médias, on va annoncer des chiffres d'augmentation du phénomène, c'est vraiment difficile à quantifier pour vrai. Des dénombrements, ça se fait dans une journée, une fois par année ou une fois par deux ans. Fait que c'est comme une photo à un moment donné, tu sais. Est-ce qu'il y en avait autant avant? Peut-être que oui, peut-être que non. Sincèrement, la réponse est impossible à avoir.
Est-ce que c'est pas un peu décourageant que, même si dans le contexte actuel, c'est difficile, le discours politique, lui, ne suive pas nécessairement? On a eu la preuve encore cette semaine, là, lors du discours inaugural de François Legault. Pas un mot sur l'itinérance, pas un mot sur la crise du logement.
Tu sais, c'est difficile de... Est-ce qu'on est supporté par nos gouvernements? Moi, je crois que oui. Je crois que les services de santé, les services sociaux, ils ont des budgets pour ça. Ils mettent en place des projets. Ils tentent de mettre en place des solutions. Tu sais, d'ailleurs, ce qu'on parlait pendant la conférence par rapport au docteur Larouche, ça fait partie d'une démarche qui part du ministère. Mais c'est ça. Est-ce qu'après ça, il faut en parler plus? Définitivement, est-ce qu'il faut que nos politiciens s'impliquent davantage? Je pense que oui. Mais je crois qu'ils en font déjà aussi. Tu sais, je veux pas...
Donc, il y a un message à lancer à la population. On invite tout le monde, en tout cas, le plus de gens possible, à se présenter au Parc La Joie.
Vraiment. Tout le monde est la bienvenue. Enfants, avec les animaux. On vous attend en grand nombre. Ça serait très apprécié de vous voir au Parc La Joie.
Claude Arpin, il est coordonnateur adjoint à la maison La Hutte de Joliette. Je vous rappelle que cette 29e édition de la Nuit des sans-abri à Joliette aura lieu le 17 octobre. C'est à 17h jusqu'à minuit au Parc La Joie.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, ouais, passablement lourd depuis le boulevard du Golfe et Salle de Mer jusqu'à un peu passé à Henri Bourassa. Bref, juste avant d'arriver à la hauteur du pont d'étagement du CN, là où on reprend de la vitesse. Traversée facile de Charles de Gaulle vers la rive nord. Repentigny, ça va quand même assez bien malgré qu'on soit nombreux, secteur du boulevard industriel. La 40 cette fois en direction ouest, c'est lent depuis Brien et ça jusqu'à Benjamin Moreau. Pont Le Gardeur, c'est un peu dense pour franchir la rivière des Prairies malgré que l'accès soit assez facile par Sherbrooke et Notre-Dame. 25 Nord, pas mal chargé là, à partir d'Henri Bourassa et ce jusqu'à l'approche du boulevard des Mille-Îles. Traversée facile vers la rive nord, vers Terrebonne. Pont Sophie Masson, ça va bien en ce moment malgré qu'on est un petit peu nombreux à l'approche. Et finalement, autoroute 640 va quand même assez bien présentement dans les deux directions entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment. Là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle. Puis moi, je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main, quelqu'un qui m'accompagne pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
Bientôt, au Festival de la galette de Sarrasin de Louisville, les cousins Branchaud, Grave aux portes, Laurent Saint-Martin, Francis de Grandpré et Éric Lapointe. Du 3 au 12 octobre, c'est le Festival de la galette de Sarrasin de Louisville. Billets au festivalsarrasin.com.
Amateurs de plein air, c'est encore le temps de profiter de la pêche journalière à l'auberge La Barrière.
Jusqu'au 19 octobre, venez taquiner la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et même la golden. L'Auberge La Barrière, c'est une pourvoirie 4 saisons où la nature vous attend, été comme hiver. Réservez votre journée de pêche dès maintenant au 450-884-5748 ou rendez-vous au 1000 Chemin du Club de la Barrière à Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Auberge La Barrière, l'endroit idéal pour décrocher.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Il est 16h31, Pierre Jubainville et l'actualité. Tout d'abord, Pierre, cérémonie en hommage au sociologue Guy Rocher.
Oui, ça se déroulait à l'UQAM aujourd'hui, cet après-midi. Monsieur Rocher, faut-il le rappeler, est natif de Berthierville. Il est décédé le 3 septembre dernier à l'âge de 101 ans. Le premier ministre François Legault a souligné la contribution immense de Guy Rocher à la nation québécoise.
Qui était membre de la commission Parents. C'est la commission Parents qui a mené à la création du ministère de l'Éducation, le réseau des cégeps, puis l'Université du Québec. Ensuite, M. Rocher a participé à l'élaboration de la loi 101. Puis M. Rocher a écrit, fait des mémoires sur la place de la laïcité au Québec.
Le chef péquiste, lui, était évidemment sur place, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a souligné l'œuvre colossale du sociologue, mais il a rappelé qu'elle est toujours inachevée.
C'est une contribution colossale dans notre bien-être et dans l'émancipation du Québec, mais c'est aussi un chapitre qui nous invite à terminer l'aventure qu'il a, à laquelle il a largement contribué.
Et maintenant, les plaintes s'accumulent, Pierre, à la SAAQ.
C'est pas surprenant, 569 plaintes qui ont été faites en 2024-2025 au protecteur du citoyen au sujet justement du grand ratage de sa clique. Et même s'il s'agit d'une diminution par rapport à l'année dernière, Marc-André Daoud explique que les impacts négatifs sont encore importants auprès des citoyens. Le protecteur se désole de la difficulté à prendre contact avec la SAAQ.
La difficulté qu'ont eu ces citoyens-là de pouvoir entrer en contact eux-mêmes avec la SAAQ, c'est-à-dire qu'ils essayaient d'appeler pour parler à quelqu'un à la SAAQ et les lignes étaient toujours occupées ou la ligne coupait et ils devaient passer par le protecteur du citoyen pour établir un contact. Ça m'amène au thème là que j'ai développé dans mon éditorial sur la question de l'écoute des citoyens. Un État qui écoute ses citoyens, ben c'est d'abord un État qui répond au téléphone quand les citoyens appellent.
On est un peu plus prudent, Claude, du côté de Santé Québec. On vient d'apprendre que le virage numérique est suspendu. On indique dans un communiqué qu'il vaut mieux prendre un recul.
On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, d'ailleurs, avec Jacques Plante. Des conséquences directes de tarifs de Donald Trump.
Oui, de tristes nouvelles. C'est le fabricant d'acier inoxydable de Terrebonne, Acier Roger, qui fermera ses portes en raison des tarifs douaniers. Une cinquantaine de personnes seront remerciées le 19 novembre prochain. Depuis juin, les exportations vers les États-Unis d'aluminium et d'acier sont frappées de tarifs de 50 %.
Les usines de bois y échappent pas, là.
Justement, c'est une dizaine de milliers de travailleurs qui sont affectés dans les scieries, dont celle de Saint-Michel-des-Saints. Les usines à papier, les usines de meubles, de bureaux, les usines qui fabriquent des armoires de cuisine, des salles de bain, etc., etc. Et selon le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, il plaide pour des mesures à court terme, à moyen et à long terme pour sauver le milieu.
On a vu le gouvernement s'émouvoir beaucoup et prendre des actions, notamment au niveau de l'automobile, au niveau de l'aluminium, au niveau de l'acier. La foresterie, ben pour l'instant, on s'est contenté pas mal de déclarations sur un programme national de construction de logements, mais qu'on n'a pas vu encore le début de quoi que ce soit. Là.
Politique fédérale maintenant, des faits troublants, Pierre, au sujet de la dernière élection dans Terrebonne.
Oui, c'est le cas de dire l'erreur de code postal qui a peut-être coûté la victoire à la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés a été détectée 3 semaines avant le scrutin. L'employé en cause, Mario Sabourin, qui était superviseur de point de service dans Terrebonne, n'a pas cru bon d'aviser le directeur du scrutin dans Terrebonne, excusez-moi. Mm-hmm. Dans une déclaration sous serment déposée à la Cour, il indique s'être rendu compte de l'erreur aux alentours du 6 avril, après avoir reçu une trousse avec un bulletin de vote spécial rempli. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'il avait inscrit son propre code postal et non celui du bureau de scrutin sur les étiquettes pour les enveloppes affranchies.
Le gars était vraiment distrait, là.
Un petit peu, hein. Le député bloquiste a finalement perdu son siège, on le sait, par une seule voix. Et l'histoire, Claude, est maintenant entre les mains de la Cour supérieure.
Et l'opposition demande au gouvernement de clarifier sa position sur les plafonds d'embauche dans les écoles.
Oui, des centres de services scolaires se disent incapables de dépenser les budgets disponibles parce qu'ils dépasseraient les cibles imposées. On écoute Philippe Rodrigue Comeau.
Même si de l'argent est disponible, des directions d'école se retrouvent menottées par un plafond d'embauche et les ajustements promis restent nébuleux.
Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul à pas avoir compris. Moi, je veux plus de réponses.
La libérale Madouanika Cadet salue tout de même le recul de la nouvelle ministre de l'Éducation hier pour régler le casse-tête qui empêche, par exemple, une école de remplacer un congé de maternité en raison des cibles d'équivalence à temps complet.
Alors qu'on avait déjà mis le couvert sur une autre marmite avec ce soi-disant réinvestissement de 540 millions cet été.
Le député péquiste Pascal Bérubé se demande, lui, s'il n'est pas déjà trop tard.
Est-ce que les enfants en difficulté qui avaient des services en juin, qui ne les ont plus aujourd'hui?
À la période des questions, c'est le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, qui a répondu en l'absence de Sonia Lebel.
La cible d'ETC, c'est un outil de gestion. Ça ne doit pas être un obstacle au réinvestissement.
Philippe Rodrigue, Comeau, Cogeco Nouvelle, Québec.
Ben voilà, merci beaucoup,
bonne
Pierre.
Soirée,
oui. Il est 16h37.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM affaires.
La municipalité de Saint-Roch-Lachigan peut maintenant compter sur un véritable centre d'affaires avec l'inauguration officielle du quartier général de Lanaudière. On accueille déjà depuis, en fait, plusieurs entreprises là, dans un bâtiment qui fait quand même plus de 213 000 pieds carrés. Un entretien de Régent Turgeon avec le président fondateur, Michael Lamarche.
Monsieur Lamarche, quartier général de Lanaudière. L'origine du projet, c'est quoi?
L'origine, à la base, c'est moi et ma conjointe Stéphanie, on s'entraînait dans un petit gym qui s'appelle le centre d'entraînement L'Équipage, et les propriétaires, à l'époque, ont annoncé la fermeture. Donc, on voulait vraiment sauver cette belle communauté-là, on voulait conserver cette belle entreprise-là dans Saint-Roch-Lachigan, et il a fallu, pour l'acquérir, la déménager, l'entreprise, et on s'est vite buté à la réalité qu'il n'y a pas juste les ménages québécois qui manquent de toi, mais les entreprises aussi. Donc, pour le déménager, c'est là où est-ce qu'est née l'idée de faire un quartier général pour pouvoir trouver un nouveau toit à L'Équipage.
Comment on a concrétisé ce projet-là là, au cours des derniers mois? Parce que on parlait d'un site de 213 000 pieds carrés qu'il fallait reconvertir. Il y a eu de la construction, des aménagements. Peut-être nous rappeler les étapes là, des derniers mois.
Bien, la première étape a été de... c'est la deuxième localisation parce que la première, elle était prévue pour être construite dans le parc industriel en avant du complexe du CPRO. Et la pandémie a avalé ce projet-là. Donc, on en est rendu à la deuxième esquisse, et c'est là où est-ce que Martin Perrault des meubles JC Perrault m'a approché pour prendre le même concept, le faire en plus grand dans le site du 5 industriel qui devenait l'ancien site de maison-mère des meubles JC Perrault. C'est là qu'est née l'idée de dire, est-ce qu'on peut créer ce même projet-là, mais en plus grande envergure? Et évidemment, ben, j'ai dit, ouais, Martin, on connaît la suite.
Aujourd'hui, là, on retrouve quoi dans le quartier général? On voit une enseigne, un centre d'affaires, c'est bien ce que c'est, avec quoi? Des bureaux, des événements, de la formation. C'est quoi le menu?
Le menu, il est déjà très grand et varié, mais il va l'être encore plus. On veut devenir vraiment l'espace reconnu dans Lanaudière où est-ce que le développement économique se passe, où est-ce que les entrepreneurs se développent eux-mêmes, se retrouvent et créent de l'essor entre eux. Donc, ce qu'on veut, c'est être un endroit où est-ce que les gens partagent ensemble leur propre succès et puissent innover de cette façon-là.
On parle aujourd'hui, 1er octobre, inauguration officielle, 213 000 pieds carrés. le taux d'occupation là après ces quelques mois d'investissement?
Ben, on est déjà surpris parce que ça fait comme 4-5 mois qu'on est ouvert et on est déjà à peu près à 70 % de taux d'occupation. Et ça, ça inclut les grands espaces de nos entrepôts, les bureaux, autant nos bureaux qui ont 100 pieds carrés que nos bureaux qui en ont 400 pieds carrés et compagnie. Donc, on est vraiment comme hyper enthousiaste. On est même surpris du succès qu'on obtient déjà présentement. Donc, ça nous rend encore plus ambitieux parce que le projet, il est déjà grand, mais on commence à comprendre qu'on a créé quelque chose qui va être beaucoup plus gros que ce qu'on avait imaginé.
Est-ce vous qui sollicitez les entreprises pour venir ici ou bien ce sont elles qui vous ont approché pour se faire une niche au quartier général?
Ben, il y a un petit peu de tout ça. Il y a aussi, bien entendu, les réseaux sociaux. Les gens, ils sont sympathiques au projet. Les gens aiment ce projet-là. Donc, les gens en parlent. Les gens partagent la bonne nouvelle aussi en même temps. Donc, on était aussi bien impliqués déjà d'avance dans la communauté d'affaires locale ici. Donc, on a reçu beaucoup, beaucoup d'appui de tous bords, tous côtés. Fait qu'exemple comme le service scolaire des Samores qui était dans les premiers à dire oui, la chambre de commerce aussi qui se sont venus ici. Donc, il y a comme une publicité naturelle qui s'est créée et il y a un enthousiasme qui est ici. Il y a comme une vibe vraiment très positive ici que on veut des constructeurs, on veut des gens qui veulent bâtir leur entreprise, mais bâtir la région aussi en même temps.
Le fait d'être un petit peu éloigné de Montréal, est-ce que ça joue ça?
Ben oui, ça joue positivement parce que présentement, ce qu'on vit ici beaucoup, c'est que avant la pandémie, le télétravail commençait. Évidemment, pendant la pandémie, là, il y a eu un raz-de-marée de télétravail. Donc, présentement, les gens commencent à être, mettons, disons, écœurés d'être chez eux dans leur sous-sol entre deux brassées de lavage. Au début, c'était positif. Maintenant, c'est rendu négatif. Mais les gens, ils sont plus prêts à retourner au centre-ville, la congestion, toutes ces choses-là. Donc, d'avoir une alternative pour sauver de chez eux, pour devenir plus performant, que ce soit plus agréable, socialiser, avoir un sentiment d'appartenance, ben là, maintenant, c'est rendu possible sans être obligé d'aller sacrer dans le trafic.
Avez-vous l'impression d'avoir réussi votre pari? De l'avoir gagné, tiens.
Ben, gagné, en fait, la réussite d'aujourd'hui, c'est de se rendre à la ligne de départ. Donc aujourd'hui, on est arrivé à la ligne de départ, mais la vraie joute va commencer à partir de maintenant. Mais oui, je suis super émotif aujourd'hui parce que ça fait 6 ans que je travaille sur ce projet-là. Donc, il y a eu pas juste des belles journées, il y a eu des journées et des nuits très dures parce que le projet, il est très, très complexe. Donc, on a vécu énormément de revers, énormément de frustrations, de bâtons dans les roues, mais on les a toutes surmontées. Fait qu'aujourd'hui, la fierté, c'est de dire « Hey, on est debout ». On est là, on commence, il y a déjà beaucoup de monde qui sont en arrière de nous, qui sont déjà installés. Fait que là, on a le vent dans les voiles, puis on n'a jamais lâché, puis on lâchera jamais non plus.
Voilà, c'était Michael Lamarche, il est président fondateur du quartier général de Lanaudière, municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan, là, qui peut maintenant compter là, sur un véritable centre d'affaires. Il est 16h43, on retrouve Jacques Plante dans les prochaines minutes. Santé Québec qui suspend un gros projet informatique et en retard d'un autre. Là, ça vient de tomber en dernière heure. On en parle avec Jacques Plante.
C'est le grand retour de l'événement Elran chez Ameublement SG Dion. Profitez de 25 % de rabais sur tous les produits Elran. Fauteuils, causeuses, sectionnels. Choisissez votre confort, vos options et la grandeur idéale pour votre salon. Mais dépêchez-vous, cette offre est valide jusqu'au 4 octobre. Rendez-vous chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Joliette. Confort, style et qualité à prix réduit. La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficaces pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Marcel-de-Richelieu, Épicerie Marie. À Saint-Germain-de-Grand-Âme, Marché du Village. Dépanneur 122. À Saint-Guillaume, Family Prix Miguel Basile. BMR Express Saint-Guillaume, Aguisca Coopérative. À Victoriaville, dépanneur voisin, Canadian Tire Essence Plus, dépanneur Pidis, groupe Vivaco, pharmacie Uniprix sur la rue de l'Aqueduc, Ballon Style. à Sainte-Clotilde de Horton, Marché Ami, à Princeville, Pharmacie Family Prix, à Saint-Léonard d'Aston, Pharmacie Family Prix Isabelle Fleurant et à Sainte-Perpétue, Marché Bonichois, Aile des Rois. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Bon jeudi Claude, salut tout le monde. Je pourrais faire un bon jeu de mots avec notre sujet. Je suis en santé de te rencontrer.
Justement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Santé Québec. Et là, on apprend en dernière heure, là, c'est le cas des dernières minutes même, que Santé Québec suspend un gros projet informatique et en retarde un autre. C'est Radio-Canada là, qui vient de tout juste de sortir ça.
Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça clique pas bien, bien, eux autres non plus. Hein? C'est facile.
Ça va pas bien. On a peur carrément de se retrouver dans la même position que ça clique là, avec cet organisme, cette société d'État Santé Québec.
Tu avais un logiciel là-dedans qui devait servir le système d'information des finances et de l'approvisionnement.
Le CIFA.
Le CIFA, ben oui, il te dit, ils ont des noms. Hein. C'est une chance que c'est un F. Censé moderniser la gestion de la paie, imagine-toi.
La paie,
oui. Ouais, et des achats dans le réseau. On se rappelle-tu au...
Les payes, il y a des fonctionnaires qui...
Phoenix, là.
Le système Phoenix, ça a été fédéral, un bordel là. Total au fédéral.
Je pense qu'il y en a qui attendent encore le chèque.
Oui,
c'est incroyable.
Exact, ouais.
Alors ça, c'est un premier pan. L'autre pan, ça nous concerne, nous, les bénéficiaires. C'était pour traiter nos dossiers de façon numérique, informatique.
Oui.
Puis c'est drôle parce que il y a pas tellement longtemps, j'avais une visite chez mon médecin. Puis il m'a remis des documents, tu sais. Puis je voulais le garder, puis il dit, moi, c'est pas encore tout informatisé.
Ouais, ouais, ouais. Non seulement ça, mais on travaille encore avec des fax.
Oui, mais il y a eu une portion de si tu veux, de mon dossier qui a pu être transféré, mais il manquait des données et il me les a données papier pour que je les amène à l'autre endroit. Alors, tu vois comment ça peut être un peu spécial.
Le but de tout ça, là, c'était d'avoir une banque centrale de données en matière de santé. Alors, si tu te pointes, par exemple, t'es traité au centre hospitalier régional de la Naudière et que là, il y a une urgence, t'es à Repentigny puis tu dois aller à Le Gardeur, ben facilement, ils pourraient consulter le dossier, puis justement, en ayant une base centrale. Là.
Si c'était dans le réseau, tu peux être à Matane, tu peux être en Beauce.
Oui, tout à fait.
On s'en va dedans. Mais il y a déjà été question, il y a de ça quelques années, pourrait consulter nos confrères journalistes ici, mais il avait dit qu'il mettrait un genre de puce sur notre carte d'assurance maladie qui contiendrait la plupart des informations.
Ouais.
Ça, c'est jamais fait, là.
Non.
Alors là, on voulait y aller avec
tant
ça.
Tant que c'est pas une puce qui t'injecte, là.
Non, mais ça c'est possiblement ça, quand ils t'ont vacciné là, son lit. Là,
ça, non, mais quoi. Ça c'était dans le temps de la COVID. Là,
plein, plein de puces, moi, puis il y a plein de monde qui me suivent. Écoute, pour l'instant, on dit que ces deux projets-là, là, ce que tu donnais tantôt, CIFA d'une part, l'autre ça s'appelle DSN, ça totalisait un coût de près de 700 millions de dollars. C'est le double qui a été autorisé par le secrétariat, mais enfin le Conseil du Trésor.
Oh!
Le double.
Le double. Alors, on fonçait dans le mur comme ça clique.
Bon.
Même chose.
Là, ce qui est arrivé, puis je pense au ministre de la Santé, Christian Dubé, il a dû avoir une lumière rouge sur son fameux tableau de bord.
Ouais.
Et là, il s'est dit, déjà en partant, ce qu'on a demandé au Conseil du Trésor, ça s'est multiplié par deux. Là, il faut faire quelque chose. Alors, félicitations, Top Gun. La seule décision intelligente qu'ils prennent, c'est d'arrêter tout ça.
Mais je comprends. Oui, je comprends pourquoi on l'arrête. Mais au départ, Santé Québec devait être une entité qui allait régler un paquet de problèmes au niveau de la santé. Puis là, on est en train de se caler dans de nouveaux problèmes, cette fois au niveau de l'informatique.
Oui.
C'est ça, là.
Faut mettre la faute sur qui? Il y a tout le temps une tête de Turc en quelque part. Il reste qu'un ministre... Et il faut qu'ils reconnaissent, il est imputable, comme on dit en politique.
Mais si on a décidé de mettre le frein, là, c'est parce que il y a quelqu'un qui a estimé là que là, on a vécu ça clique. Alors avec Santé Québec, on s'enlignait pour faire la même chose. Il y a des lumières rouges qui sont allumées, des dépassements de coûts qui avaient peut-être aucun sens. Alors là, il y a quelqu'un qui a allumé, mais ça clique, il n'y a personne qui a allumé.
Ben,
ou quoi? Ça a été long.
Ben, moi, j'ai l'impression, tu vois, ce que tu amènes, là, on fait un peu de politique fiction, mais on le voit, là, la commission d'enquête, la commission Galant, là, mm-hmm. ça s'étire pas mal.
Oui.
Hein? On nous disait le rapport à l'automne. On est rendu dans l'automne, les feuilles ont commencé à changer de couleur. Moi, ça me donne une bonne indication.
Ouais, on est loin du rapport. Là.
Fait que le rapport, on va peut-être l'avoir juste au début de 2026.
Moi, je te dirais qu'au printemps même.
Et là, il y a peut-être quelqu'un dans le bureau du PM qui a dit, François, hein, là, si tu sais, Radio-Canada vient d'avoir l'information, là. Si les journalistes...
Concernant Santé Québec,
oui. Ouais, si les journalistes se mettent à fouiller là-dedans... Mm. Si on passe à une autre commission, on pète les élections.
Alors, ben là, c'est, ça va de soi. C'est
là,
normal.
On fait quoi?
Alors, on a refilé ça à Radio-Canada. Radio-Canada a sorti ça aujourd'hui, donc, que du côté de Santé Québec, ben, on suspend un gros projet informatique. On en retarde un autre.
Ça va donner du gaz là, en masse aux partis d'opposition parce que il y a pas personne qui va dire ouais, oh, ben, ils ont ouais. pris la bonne décision. Non non, encore une fois là, on est à 700 millions de dollars puis la patente elle marche pas.
Prochain gouvernement qui va être pris avec ça, ouais. on s'entend que ce sera certainement pas la CAQ qui sera au pouvoir au prochain gouvernement. Alors c'est le prochain gouvernement qui va être pris ça,
qui va ramasser les pots cassés.
Il ramasse les pots cassés puis là il va s'excuser en remettant ça sur le dos du gouvernement caquiste précédent. Ouais, c'est ça. Comme ça d'un gouvernement à l'autre depuis que l'histoire du Québec est là.
Oui, on pèle toujours dans le cours du suivant.
C'est ça.
Ouais.
Recule à l'époque de Duplessis, ben c'était la même histoire, c'était le gouvernement précédent.
Mais j'en parlais justement avec un collègue de travail en disant souvent ça arrive, ça, le gouvernement va conclure des ententes là, en sachant qu'il va perdre, et quand l'autre arrive, ben lui, il doit casquer.
Ben, c'est ça, il se ramasse avec les problèmes de l'autre. Merci Jacques Plante.
En tout cas, ils ont besoin d'une carte d'assurance maladie solide.
Oui.
Salut Claude.
Ça va de soi. Bon, ben voilà, c'est le temps de saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, à François Morin, Mathieu Bélanger, Pierre Jubinville, ainsi que Jacques Plante que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il y a La vie dans la Naudière qui s'amène dans un instant. On s'en va faire un tour du côté de Notre-Dame-des-Prairies aujourd'hui. Et Nicolas Bellemare vous présentera le 5 à 7 trad de l'autre côté de l'actualité de 17h. Demain, on est en congé. On se retrouve lundi 16h pour une autre édition de La Naudière PM. Salut!